Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Fanny Lagneau. Bonjour.
Bonjour.
Fanny Lagneau, vous êtes fille de Bernard Lagneau, qui nous a quittés récemment, en fin d'année 2024. Et pour cela, vous consacrez une exposition en hommage, avec la participation de la ville de Luc-Andiwa. Une exposition donc qui présentera 25 œuvres. Ce sont des machines, des personnages, des constructions, des tableaux réalisés au cours de ces 40 dernières années. Et pour cela, vous avez décidé de monter cette exposition donc intitulée « Un monde mouvant » qui a commencé ce 21 juillet et qui aboutira le 13 août. Alors, peut-on décrire en quelques mots ce qu'était l'œuvre de Bernard Lagneau ?
En quelques mots, c'est pas facile, parce que c'est une œuvre qui a pris différentes formes, qui est très singulière. Alors quand même, le point commun entre toutes ces sculptures, ces tableaux, ces installations, c'est le carton. Donc c'est un artiste qui a travaillé le carton toute sa vie. C'était vraiment son matériau de prédilection, parce qu'il est léger, très résistant. Donc ses premières œuvres, c'était autour du mouvement. C'était des mécanismes, des machines. Et il installait des roues, des courroies dans des lieux avec l'idée vraiment de remplir l'espace. Et pour lui, c'était comme une sorte d'écriture. Les courroies étaient une écriture dans l'espace. Donc c'est ce qu'il appelait les lieux mécanisés. Et tout ça, c'était en mouvement permanent grâce à des moteurs électriques. Et donc là, il a rempli un certain nombre de lieux très différents, aussi bien des musées, des centres culturels, une gare, une mairie. Et il en a même installé en extérieur. Ça, c'était dans les années 70. Et puis, parallèlement, il a aussi réalisé des architectures en carton. Alors là, des monuments gigantesques qui pouvaient aller jusqu'à 6 mètres, 7 mètres de haut. Et puis, des choses plus petites aussi, des petites maquettes, ce qu'il appelait les temples-cabanes. Donc là, on est dans des proportions plus raisonnables, jusqu'à 50 cm de haut. Et puis, petit à petit aussi, il a diversifié ses mécanismes. Il a fait des choses plus sophistiquées, mais qu'il présentait toujours dans le cadre des lieux mécanisés. Et puis, dans les œuvres les plus récentes, il y a aussi des petits personnages. Et il a fait des séries de personnages qui s'appelaient les pères Lachaise, en trois mots, ou les baigneuses. Et toujours en carton, des personnages qui mesurent quelques dizaines de centimètres de haut. Donc, avec ma sœur, nous avons hérité de toutes ces œuvres, y compris des tableaux aussi, parce qu'il avait une formation de graphiste. Donc, il dessinait et il peignait. Donc, en fait, on a toutes ces séries. Et ce qu'on a voulu montrer dans l'expo à Luc, c'est justement la diversité en fait, de son approche et son univers, parce que c'est vraiment un monde très particulier, avec du mouvement. Et les personnages, par exemple, on va les retrouver dans les tableaux, ou certains mécanismes, on va les retrouver aussi dans des collages. Et puis, il y a des thèmes qui reviennent, l'Antiquité... l'architecture, c'est un tout.
Donc, une exposition qui présentera 25 œuvres, disait-on en début d'émission, qui sont en quelque sorte des maquettes également, de projets ou d'œuvres construites. Vous-même, Fanny, est-ce que vous étiez assez proche de votre père pour être présente aussi lors de ces conceptions, ces constructions ?
Alors, jusqu'à un certain âge, quand j'étais enfant, adolescente, effectivement, j'ai participé au montage de ces lieux mécanisés. C'était des grands moments. Et puis, par la suite, moi j'ai suivi ma voie aussi. Et par contre, oui, j'ai toujours suivi tout ce qu'il faisait et discuté avec lui. Et même ces dernières années, quand il exposait plutôt à l'étranger, en Allemagne ou dans les pays de l'Est, quand je pouvais, j'allais voir.
D'emblée, il s'est dirigé, puisqu'il était aussi maquettiste, hein, oui. Fut un temps, ce qui est certainement un outil qui lui a permis de concevoir ses œuvres. Mais d'emblée, il s'est tourné vers le carton. Pour lui, c'était un matériau, en quelque sorte, d'une certaine noblesse, sa chaleur, sa légèreté.
Tout à fait. Alors, au début, il a commencé par le papier, quand même. Il faisait des toutes petites roues dentées en papier qu'on tournait avec un crayon. Et puis, même, il était tourné vers l'édition. Son idée, c'était d'éditer ces petits mécanismes. Et il a fait une petite série, d'ailleurs, avec les éditions Attier, qui s'appelait les Mécanuplis. Et on pouvait faire des toutes petites machines en papier. Et donc, du papier, ensuite, il est passé au carton quand il a changé d'échelle. Mais il aimait vraiment beaucoup le carton. Et il tirait parti de toutes les ressources du carton, parce que par exemple les courroies, c'était du carton ondulé, et c'était les ondulations, le crénelage là, du carton qui faisait office d'engrenage. Il utilisait aussi beaucoup les gros tubes en carton, qui sont très très résistants, pour construire des structures, pour accrocher ses roues. Et en fait, il n'a cessé d'explorer là, les possibilités du carton pour voir jusqu'où il pouvait aller. Et c'est vrai que c'est un matériau qui est très résistant.
Ces conceptions étaient dessinées en amont, ou alors est-ce qu'il y avait peut-être plutôt un empirisme qui l'amenait à développer ces œuvres?
Voilà. Alors, dans les croquis qu'on a retrouvés, là, c'est surtout des plans pour les grandes installations. Parce qu'une fois en Allemagne, là, il a envahi un lieu qui faisait 100 mètres de long. Donc là, il faisait des plans et même des fois des maquettes à échelle réduite. Hein. Par contre, tout ce qui était mécanisme ou personnage, ça, il le faisait directement. On n'a aucune esquisse, aucun plan. Et il disait que c'était vraiment ses mains qui travaillaient, qui l'inspiraient, en fait. Et à tel point que même des fois, il y a des mécanismes très sophistiqués avec des petits engrenages, de la démultiplication, des bielles, des vilebrequins. Et ça, il ne faisait pas de schéma avant parce qu'il n'était pas du tout mécanicien. Il ne faisait aucun schéma, aucun calcul. C'était empirique, comme vous disiez.
Il y a toujours quand même cette recherche de tension, hein, de manière à pouvoir mouvoir, que les machines puissent se mouvoir ou s'activer.
Tout à fait, tout à fait. C'était vraiment le point de départ et le mouvement, c'était la chose importante. Et il a fait aussi beaucoup de recherches sur le mouvement dans la peinture, qu'on retrouve justement dans ces peintures. Hein. Voilà, l'espace, les trois dimensions. C'est pas des choses plates. C'était occuper l'espace dans toutes ses dimensions et avoir des mouvements plus ou moins complexes et qui se répondaient. Parce que après, tout, comme tout était relié par des courroies, tout était en mouvement, en fait.
Ces œuvres de création, comment étaient-elles motivées? Est-ce qu'une idée échafaudait un peu la construction, ou alors c'était le pur hasard au départ?
Non, je pense que dans sa tête, il voyait où il voulait aller. Comme pour lui, c'était écrire dans l'espace. Je pense qu'il percevait l'ensemble de l'espace et qu'il imaginait dans sa tête comment parcourir cet espace et le remplir. Il voyait, je pense qu'il voyait vraiment dans sa tête. Après, et d'après ce qu'il disait aussi, hein, je pense que c'était ça.
Lors de la recherche, j'ai lu qu'il ne vendait jamais ses œuvres. Alors, de quoi vivait son art?
Alors, en fait, ses œuvres n'étaient pas destinées à la vente parce que ce qu'il vendait, c'était ses installations. Ces grandes installations qui duraient 2 semaines, 3 semaines, des fois 1 mois. Donc, il arrivait avec son matériel. Il était payé pour monter le lieu mécanisé, hein. Et puis ensuite il redémontait tout et il remportait son matériel. Donc toutes les œuvres, même les œuvres plus petites qui étaient présentées à l'intérieur des lieux mécanisés, elles n'étaient pas destinées à être présentées toutes seules ou à être vendues. Ça faisait partie d'un tout.
C'était des œuvres éphémères, en quelque sorte, plutôt de vie courte même.
Eh ben, en fait, pas si éphémère que ça, parce qu'il nous en reste beaucoup.
Mais une fois installée...
fois installée, parce qu'en fait, chaque installation était différente, en fonction du lieu. Donc, il avait un matériel de base, ses roues, ses courroies, ses petites machines. Mais c'était toujours différent. C'était vraiment adapté au lieu. Et après, donc, il le redémontait. Donc oui, ça durait 3 semaines. Et dans ce sens-là, c'était éphémère.
Et ces œuvres, une fois exposées, récupérées, que devenaient-elles ? Elles finissaient...
Il les réutilisait.
D'accord.
Bon, il y en a beaucoup quand même qui ont été détruites par l'usure, finalement. Oui. Hein. Mais il nous en reste encore là une bonne centaine hein, de maquettes et de machines. Parce qu'en fait, le carton est quand même très résistant. Surtout quand il a été verni, même ignifugé pour les lieux publics. Enfin, donc maintenant, il nous reste quand même une bonne centaine d'œuvres, sans compter les dessins et les tableaux. Et alors, la chose particulière, c'est que maintenant, les lieux mécanisés, donc les roues, les courroies, tout ça, on ne peut plus le faire. Il n'y a que lui qui pouvait le faire. Mais il nous reste ces plus petites machines, ces petits personnages, ces petites maquettes. Et c'est ça qu'on présente à Luc. Et l'idée, c'est de les montrer, de les mettre en valeur pour elles-mêmes. Parce que chacune est quand même intéressante quand elle tourne, quand elle bouge, ou même les maquettes. Mais elles sont plus présentées dans leur contexte d'origine.
En quelque sorte, ces œuvres n'avaient qu'un bref passage sur Terre.
C'est ce qu'il voulait. Oui, oui.
Et c'était pour illustrer un propos, une pensée, cette démarche.
Alors oui, je crois que pour lui, l'art était dans le moment. Voilà, c'est effectivement l'art de l'éphémère. Même en architecture, hein, il a construit des grosses architectures en extérieur. Et là, il les laissait se détruire naturellement. Parce que, oui, pour lui, l'art, c'était ça, c'était le moment, l'émotion du moment, l'instant.
J'imagine que pour son travail, il était en recherche d'être au plus pur de son matériel, que ce soit le carton, voire le bois, ou peut-être des cordes. Mais est-ce que l'avènement du moteur électrique était quand même une grosse incidence sur son travail ? Est-ce qu'il aurait pu s'en passer ?
Alors oui, d'ailleurs, au départ, il n'y avait pas de moteur, il y avait des grosses manivelles. Et on tournait les manivelles et tout tournait. Et puis petit à petit, comme il fallait que ça tourne en permanence finalement, hein, que le mouvement c'était vraiment la raison d'être, et que c'était présenté dans des lieux aussi où il y avait beaucoup de passages et une très grande amplitude finalement d'horaire, d'ouverture, petit à petit, il a introduit quelques moteurs électriques. Mais en fait, il n'y avait pas besoin de beaucoup de moteurs pour entraîner l'ensemble. Et c'est pareil, ça pouvait tourner très très longtemps. Quand une courroie était usée, il la remplaçait. C'était très très simple. Et l'essentiel, c'était que le mouvement soit là.
Il y a la vision, certainement. Peut-être un parfum aussi de ce carton dans l'air, dans les lieux. Et surtout, le son. Quels sons produisaient ces machines ?
Tout à fait. Alors, dans les enregistrements qu'on a, on a quelques vidéos quand même, il y a un bruit particulier. Alors, à la fois du frottement des courroies, donc c'est carton sur carton. Il y a un petit grincement aussi, des roues qui tournent. Et puis, il a mis un peu de bois quand même. Dans les tout petits engrenages, il y a des dents en bois. Donc ça fait un petit bruit aussi, le bois. Et puis, des fois, il y a des balanciers. Donc, on entend le bruit. Ou il a fait aussi des énormes marteaux en carton qui se lèvent, qui retombent. Donc, il y a un bruit un peu sourd, des bruits de glissement. Et effectivement, c'était tout un univers là, de sons.
Le toucher, peut-être.
Ah oui, 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 bien sûr, parce que c'est un matériau qui est très doux en même temps, le carton, qui est un peu chaud. Donc il y avait tous ces tubes en carton là, qui protégeaient les petits mécanismes fragiles. Mais oui, bien sûr, il y avait les tubes en carton, les grandes roues, les gros personnages, et puis la ficelle aussi qui était omniprésente. Mais finalement des matériaux naturels quand même. Hein.
Ma pensée vient à dire que ses œuvres, ou même en tant qu'artiste, n'avaient pas une grande connaissance, reconnaissance au niveau français, national. C'était aussi peut-être pour lui le moyen d'aller sur d'autres pays d'Europe. Est-ce qu'il y avait peut-être plus une sensibilité? Moi, ça me fait penser peut-être à Tinguely aussi, hein, pour ses mécanismes. Est-ce qu'il y a eu cette inspiration de Tinguely sur son travail?
Oui, alors c'était les années 70, hein. C'était aussi tout un mouvement à l'époque de l'art cinétique, des machines, donc il a sûrement été inspiré par ça. Mais bon, il était plus jeune que Tinguely, de toute façon il est venu après. Mais effectivement, il y avait beaucoup de recherches quand même autour du mouvement dans ces années-là. Il était très influencé aussi par l'art pauvre, dans les années 70, par l'art pour tous, aller au-devant du public... Hein, l'art dans la rue, enfin voilà. Et en fait, il y a eu un peu deux périodes dans son activité, puisqu'il a commencé en 72. Jusque dans les années 80, il a fait beaucoup d'expositions en France, hein, à la fois dans des musées des beaux-arts, musées d'art moderne à Paris, des maisons de la culture à Rennes, les entrepôts Lainez à Bordeaux. Enfin, il a vraiment tourné dans toute la France. Et puis ensuite, il y a une période dans les années 80 où il a moins exposé. Et c'est là qu'il a commencé à peindre, d'ailleurs, à faire des choses plus petites. Et puis, dans les années 90, il a rencontré un agent suisse qui lui a ouvert, en fait, les portes plutôt de la Suisse, l'Allemagne, l'Europe de l'Est. Et donc, toutes les années 90 jusqu'en 2015, là, il a beaucoup exposé en Allemagne, mais aussi en Tchéquie, en Slovaquie, jusqu'en Hongrie.
Vous-même, enfant, vous étiez parfois dans cet atelier. Est-ce qu'il y avait cette magie qui opère à cette vision? Et j'imagine que dans les lieux où sont installées ces œuvres, il y avait certainement aussi l'intérêt des enfants sur ces travaux.
Oui, bah les enfants sont fascinés, hein, c'est sûr. Parce que dernièrement, là, même à Luc, j'ai fait visiter à des enfants du centre de loisirs. Et puis c'était formidable, les remarques qu'ils ont faites et tout ce qu'ils ont vu, observé. Et c'est vrai qu'enfant, bah, oui, ma sœur et moi, ça nous a beaucoup marqué parce que plus il avait son atelier, une partie de son atelier dans la maison. Et il faut voir qu'il travaillait tout le temps. Il n'y avait jamais de week-end, jamais de vacances. Il était tout le temps à travailler et on voyait les choses se faire au fur et à mesure. Et bah, ça a toujours été un grand mystère aussi. D'où ça lui venait, tout ça, comment il avait toujours des idées, il était toujours créatif, voilà, et on voyait les choses apparaître, se développer, et ouais, on était assez fascinés, oui.
Et d'un autre côté, il revisitait aussi l'histoire de l'art, de l'architecture, puisqu'il se réfère dans certaines œuvres, on voit notamment la Tour de Pise ou le Parthénon, ce sont les architectures... qui marque pour lui quel aspect
Oui, il a toujours été intéressé par l'architecture, de toute façon, l'Antiquité, aussi le Moyen-Âge, la Renaissance, l'Italie. C'est vrai qu'il a fait pas mal de voyages en Italie.
On peut même penser à Léonard de Vinci.
Tout à fait, les dessins de Léonard de Vinci, oui, dans ses dessins d'engrenage, c'est tout à fait assumé, oui, l'influence de Léonard de Vinci aussi. Ça faisait partie, oui, c'était son univers aussi, cette référence à l'architecture.
Ce travail qui prend énormément de place, hein, même si elles ne sont pas montées, j'imagine que tous les matériaux, les éléments nécessitent des lieux de stockage. Est-ce que c'était peut-être aussi une peine pour lui de devoir les mettre dans cet aspect-là, de les laisser dans cet aspect-là?
Oui, c'est vrai que déjà, ça prenait beaucoup de place à stocker et que pour lui, il fallait montrer les œuvres, il fallait les faire vivre. Et jusqu'à ces dernières années, il voulait toujours exposer, montrer. Et il a continué à créer, d'ailleurs, jusqu'à la fin. Hein. Et d'ailleurs, ce qu'on montre dans l'exposition, là, c'est vraiment ses dernières œuvres dont certaines n'ont jamais été exposées. Et sur la fin, même s'il faisait des choses beaucoup plus petites, et il faisait presque des miniatures, Mais il voulait toujours montrer, oui.
Et la peinture, donc, c'est peut-être sa dernière période. Pour lui, c'était peut-être un soulagement aussi de passer à deux dimensions.
Soulagement, je ne sais pas. Il n'y passait pas beaucoup de temps, finalement, à ça. Mais je pense que c'était un prolongement. Parce que finalement, tout ce qu'il représente quand même dans ses peintures, c'est vraiment lié à ses machines, parce qu'on a quand même beaucoup de peintures de mécanismes, ou à ses personnages qu'il déclinait comme ça en série. Donc, ce n'est pas vraiment de l'art figuratif, mais ça représente quand même les choses qu'il avait créées déjà. Il y a un très fort lien quand même entre sa peinture. Et moi, je pense qu'aussi là, c'était pour laisser une trace. Parce qu'il savait quand même que c'était plus durable que des œuvres en carton. Et c'était un moyen, voilà, de prolonger la vie aussi, je pense, de ses œuvres.
Voilà, ce sont des œuvres dites cinétiques, hein, on peut dire. Et il y a peut-être aussi dans les peintures... Je pense, ça me fait penser à Marcel Duchamp aussi, avec... La Marie mise à nu par les sept Maries même.
Oui, oui, sûrement une influence. Et puis du Buffet aussi, il aimait beaucoup du Buffet.
Et il y a aussi, en même temps, ce voyage de sa part dans l'univers de la peinture et du dessin, puisqu'il s'est aussi intéressé à diverses techniques hein, de cet art graphique, ou du dessin, ou de la vie même, et des dessins techniques ou d'architecture. Ça, c'était sa profession initiale.
En fait, non. En tant que graphiste... Il a suivi des cours d'histoire de l'art, des cours d'art très classiques, hein, même de dessin d'après modèle. Par contre, tout ce qui était dessin technique, il n'a pas eu de formation là-dessus. Hein. Il s'est formé tout seul. Et les plans, c'est pareil. Je pense qu'il aurait aimé être architecte. Hein. C'était quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Mais là, il était totalement autodidacte. Hein.
Ses œuvres, elles étaient parfois acquises par des lieux. Et est-ce qu'il y avait, en quelque sorte, est-ce que Bernard Lagnoux laissait ses œuvres aux lieux sur lesquels il exposait ou qui étaient sollicités parfois?
Eh bien, pas à ma connaissance, en tout cas.
Non, parce que vous disiez tout à l'heure que pour lui, l'œuvre devait être exposée. Est-ce qu'il avait ce désir qu'elle soit peut-être... prise ou recueillie auprès d'un lieu ou d'une municipalité ou d'une
Alors,
collectivité.
De son vivant, en tout cas,
non.
Il récupérait toujours toutes ses œuvres pour les réutiliser après. Bon, après sa mort, par contre, oui, on a cette question. Et je pense qu'il y pensait aussi du devenir de ses œuvres, effectivement, qu'elles puissent être exposées durablement.
Le matériau, le carton, comment se procurait-il cette matière?
Je sais qu'il s'est quand même pas mal fourni chez les cartonniers de Cray, qui lui livraient d'énormes plaques en carton, qui l'ont aussi d'ailleurs sponsorisé pour certaines expositions. Hein, oui, oui. Oui, je pense qu'il le faisait venir de Cray, le carton. Après, je ne peux pas vous en dire plus, là.
Voilà, c'était l'économie circulaire.
Oui.
Voilà.
Et alors après, au niveau du recyclage, là, je ne sais pas non plus.
Il n'avait pas cet esprit, un peu de l'idée du recyclage, de réinterpréter
Il recyclait
matériaux.
Lui-même, finalement.
Oui.
Hein, c'est-à-dire que ses tubes, quand ils étaient un peu abîmés à un bout, il les coupait et puis il les réutilisait pour autre chose. Et même, on retrouvait certains morceaux de carton, de courroie dans ses tableaux. Où, voilà, il aurait utilisé au maximum son carton. Après, c'est quand même très résistant. Les tubes, on en a beaucoup. Et ça ne se détruit pas si facilement que ça.
Vous-même, vous l'avez peut-être assisté, hein, comme vous le disiez en début d'émission. Est-ce que ça vous a éveillé une vocation en vous pour... un domaine.
Ah je pense que c'est aussi toute une éducation à l'art, au regard. que enfant, ma sœur et moi, ils nous emmenaient dans les musées, ils nous faisaient voir certaines choses, les tableaux avec son œil à lui. Pareil par rapport à l'histoire de l'art ou l'histoire de l'architecture. Donc c'est un tout. C'est un tout.
Ça vous a nourri.
Tout à fait.
Et vous-même êtes dans l'art également?
Pas du tout.
Pas du tout, non. Vous avez choisi une autre voie.
Voilà.
Il y a cette exposition avec des horaires précis à indiquer aux auditeurs, du lundi au jeudi, à partir de 16h jusqu'à 18h30, le vendredi, de 10h à 12h30, au matinée du marché de Luc. L'entrée est libre. Il y a un partenariat aussi avec l'IRALUC. Peut-on expliquer ce qu'est l'IRALUC?
Alors l'IRALUC, donc, c'est l'association qui tient la bibliothèque de Luc. Hein, et c'est grâce à eux qu'on peut exposer, puisque d'une part, nous avons contractualisé avec eux pour le prêt des œuvres. Et d'autre part, ce sont des volontaires de l'association qui assurent l'animation de l'exposition. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours une présence sur place. Et donc, ce sont des membres de l'association qui sont là pour répondre aux questions, pour présenter l'exposition. Et alors là, je dois dire que je suis très reconnaissante à cette association, parce que sinon, on n'aurait pas pu monter cette exposition. Hein. Alors bien sûr, c'est grâce à la mairie de Luc qui nous a aussi prêté cette magnifique salle, qui est une grande salle, hein, qui fait près de 70 mètres carrés, avec des murs blancs où les œuvres sont bien mises en valeur, grâce donc au maire, donc qui est Jérôme Mellet. Il y a un conseiller municipal qui nous a aussi beaucoup aidés, qui était dès l'origine du projet, c'est Robert Fredenucci. C'est grâce à lui que l'expo a pu se monter. Donc on a eu vraiment un soutien de Luc, de la commune de Luc. Et ça, pour nous, c'était très, très important, hein, après le décès de notre père, que cet hommage vienne de Luc et qu'on ait le soutien même de la population, des Lucois. Vraiment, c'est quelque chose de formidable.
Puis, il y a aussi ce partenariat avec le CABA.
Oui, tout à fait. Et c'était important pour nous de travailler avec des associations qui sont très bien implantées à Luc. Et donc, le CABA, qui participe également à l'animation d'exposition et à la communication aussi autour de l'exposition. C'était très important voilà, on leur en est très, très reconnaissant.
Voilà, donc à l'espace d'exposition temporaire à la bibliothèque de Luc Andioua, 160 rue des Écoles. Le travail de Bernard Lagneau également était inspiré sur ces mécanismes, l'architecture, petit à petit, ou très tôt, des personnages sont apparus aussi dans son travail, ou alors c'est une transition qui s'est opérée. Là, l'œuvre qui est utilisée pour l'affiche, c'est celle de ces colonnes qui tiennent tant bien que mal avec l'assistance d'un personnage. Est-ce que c'était un nouveau regard qu'il voyait par rapport à ces machines et qui dépérissent en quelque sorte? Est-ce que c'est une société qui est en train de s'écrouler et que lui-même ou que le personnage tente de maintenir?
Oui, on peut voir beaucoup de choses, hein, dans ces œuvres. Alors justement, là, le petit personnage, parmi les œuvres les plus récentes, hein, c'est 2020. Il y a une autre œuvre un peu du même genre avec des cariatides qui soutiennent aussi un fronton qui est en train de s'écrouler. Donc il y a une grosse inquiétude, on sent même une angoisse, hein, de l'avenir, voilà, mais qui est aussi une angoisse de la vieillesse, de la mort, on peut le dire. Ceci dit, les premiers personnages quand même dans ces œuvres sont apparus en 1988, avec déjà une bonne dose d'angoisse, puisque ça s'appelait « Les naufragés », inspiré par le tableau de Géricault, le radeau de la Méduse. Et là, c'est contrairement au tableau où les personnages ne nous regardent pas, là, ils sont tournés vers nous, ils nous font des signes désespérés, ils nous appellent. Et voilà, c'est une œuvre qui est quand même assez torturée.
Est-ce qu'il existe des monographies concernant son travail?
Non, il n'y a pas de monographie. Il y a un certain nombre d'articles qui ont été écrits au fur et à mesure sur ces différentes expositions, en particulier par Gilbert Lascaux, qui était un critique d'art et écrivain. Mais on n'a pas de recueil de tous ces textes pour le moment.
Actuellement, cette œuvre, ces œuvres sont exposées à Lucandiwa. Est-ce que vous êtes en démarche pour proposer cette exposition dans d'autres lieux?
Alors là, bah, pour nous, c'est tout récent. Mais oui, ce qui est sûr, c'est que... voilà.
Il y a cette envie de partager, en tout cas.
Tout à fait. Tout à fait, de montrer ses œuvres, de le faire connaître. Donc, voilà, avec ma sœur, nous sommes ouvertes à toute forme de proposition ou de collaboration avec des structures existantes pour présenter, exposer, voire vendre même ses œuvres, mais pour qu'elles continuent à vivre, en tout cas. On est très heureux de la fréquentation, déjà, au bout d'une semaine. On a eu beaucoup de monde, de tous âges, et que, bon, on a eu des retours... très enthousiaste d'ailleurs, hein, et c'est vraiment très encourageant.
Eh bien, Fanny Lagneau, je vous remercie beaucoup d'être venue sur RDUA pour nous parler donc de ce monde mouvant. On comprendra bien, quoique les œuvres, elles sont mouvantes dans ce lieu.
Alors,
elles sont
certaines,
animées.
Oui, certaines. Il y en a une qui tourne, effectivement. Et puis, il y a une vidéo qui montre ce qu'étaient les lieux mécanisés pour qu'on voit un peu dans quel environnement elles étaient. Voilà, pour qu'on voit un peu de mouvement.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Thank you.